38. 0h47. Jean-Loup n'était jamais entré dans un Red Corner. Il en avait simplement entendu parler, comme tout le monde. Dans le taxi, il avait trouvé particulièrement ridicule cette idée d'installer une alcôve censée être romantique au cœur d'un centre commercial, coincé entre une jardinerie, un magasin de bricolage et un carrefour. Encerclé par un périph', avec d'immenses parkings de béton comme seul horizon et la succession de feux rouges comme autant de soleils levants. Il avait pourtant suivi Falline, tels deux clients ordinaires. Il s'était laissé guider par la main à la sienne accrochée, avait traversé en silence le bar automatisé désert, grimpé l'escalier tamisé, introduit sa carte bancaire professionnelle au terminal de paiement électronique de la chambre caravansérail, puis avait laissé Falline entrer. Le temps s'était arrêté. Une subtile musique berbère les accueillit. Il avança, s'enfonça dans une moquette jaune paille, épaisse au point de s'imaginer déjà aspirée par des sables mouvants. La chambre n'avait pas de mur, pas davantage de plafond. Ils entraient dans une tente, une vaste tente de caravanier, habilement dressée pour s'encastrer dans la pièce et en épouser les formes, ne laissant que quelques ouvertures pour admirer un ciel étoilé en trompe-l'œil, des dunes lointaines peintes sur les murs, une oasis, un astucieux jeu de miroirs multipliant à l'infini les tapis sous la tente, les coussins, les soieries. Deux torches flambaient devant les rideaux de toile à l'entrée de la tente, retenues par deux cordes d'or. Un décor des mille et une nuits. Mille nuits pour les fantasmes, pensa Jean-Loup, et une seule pour les réaliser. Dans une discrète penderie, des vêtements et accessoires étaient à disposition des clients. Robes, voiles, masques, turbans, ceintures, éventails. Jean-Loup s'était allongé sur les coussins, sans éprouver aucune envie de se déguiser en prince oriental. Falline n'avait pas insisté, mais avait tenu à jouer. Elle s'était enfermée quelques minutes dans la salle de bain pour en sortir, emballée de la tête aux pieds. Le même long turban mauve, au reflet pourpré or, couvrait d'abord le visage de Falline, ne dévoilant que le carmin de sa bouche et le noir de ses yeux, puis son cou, ses épaules, corsetait sa poitrine et sa taille pour lier ensuite ses deux jambes en queue de sirène jusqu'à ses chevilles nues. Une princesse momifiée qui n'attendait que lui pour lui redonner vie. Jean-Loup ferma les yeux quelques secondes, comme pour vérifier qu'il ne rêvait pas. Tout se mélangeait dans sa tête. Il avait perdu le contrôle. En sortant de chez Gagnère, il s'était juré que cette soirée se limiterait à un baiser, un tendre baiser d'adieu, avant de filer. Sa langue lui avait échappé, ses mains aussi. Falline n'avait rien fait pour l'empêcher. Un seul non aurait suffi à chasser ce serpent tapi dans son cerveau. Il en était persuadé. Ce serpent qui lui soufflait l'envie de connaître le goût de la bouche de cette fille, le poids de ses seins au creux de sa main, l'humidité de son intimité au bout de ses doigts. Et s'arrêter là. À pas microscopiques, telle une quille qui vacille, la momie s'avançait vers lui. Jean-Loup se maudissait. Il maudissait cette faiblesse des hommes. Il maudissait ce salopard de Dieu et son armée d'anges ingénieurs créateurs qui les avait programmés pour immanquablement bander face à une fille bien roulée, qui leur avait implanté ce virus dans le crâne, capable de balayer en une minute les défenses que l'éducation et la morale avaient mis une vie à dresser. Bien entendu, ça ne s'était pas arrêté là. Il avait proposé à Falline de le suivre dans sa chambre au Radisson Blue, mais elle avait une autre idée. Une meilleure idée. Falline, doucement, de son bras droit, la seule partie de son corps non momifié, détacha le turban qui enveloppait ses cheveux. Ils tombèrent en pluie de soie, alors que le tissu qu'elle déroulait libérait son menton, sa nuque, ses épaules. « Fais-moi tourner, » chuchota-t-elle. Il saisit l'extrémité du turban qu'elle lui tendait. Il avait compris. C'était à lui de la dénuder en tirant sur le voile violet. La belle tourbillonnerait pour lui comme une toupie impudique, jusqu'à ce que tombe l'autre extrémité de la longue traîne de tissu et qu'elle soit entièrement nue. Il exerça une traction sur le ruban, lentement, puis plus fermement. La belle ne tourna pas. Le jeu ne lui suffisait pas. Elle voulait encore l'épicer. D'une main experte, elle attrapa le poignet de Jean-Loup et, à l'aide du turban, le noua à l'un des barreaux qui soutenait la tente. Ainsi, nous sommes tous les deux liés. Falline glissa le turban dans la paume de Jean-Loup pour que sa main attachée puisse tout de même, par un simple mouvement des doigts, dérouler le tissu. Elle se redressa et, telle une derviche tourneuse, commença à pivoter à chaque centimètre de turban libéré par Jean-Loup, comme guidée par son interminable bras de soie. Dissimulée hors de la tente, des haut-parleurs diffusaient une musique orientale au tempo de plus en plus rapide. Une playlist, pensa Jean-Loup, dont le rythme était programmé en fonction des ébats supposés des amants. Sa tête tournait plus vite que la taille de Falline. Blandine ne saura rien, martelait-il contre les parois de son crâne, alors que ses doigts continuaient d'agripper le tissu, s'y accrochaient comme à la corde d'un puits au fond duquel il se noyait, une corde qui sans cesse se dérobait. Alors il tira, tira, sans plus penser à rien d'autre. Le turban de Falline dévoilait le haut de ses seins. Aplati sous le tissu serré, chaque centimètre gagné par Jean-Loup aidait à les libérer. Avec une émotion indicible, il les vit naître sous le tissu plus lâche, éclore, pour ainsi dire, deux poussins plus clairs posés sur ce nid de miel, timides d'abord, et à chaque nouvelle volte s'arrondir. Blandine ne saura rien. Cette pensée devait écraser toutes les autres. Le ventre de Falline était déjà à demi libéré, aussi plat, dénudé que corseté, une plaine brune frôlant le gouffre de son nombril lorsque la belle se pencha à nouveau vers Jean-Loup. « C'est toujours toi qui me tiens, mais tu ne pourras pas m'échapper. » Elle saisit un mètre du turban qui coulait sur le tapis, telle la mue d'un long reptile, et s'en servit pour nouer le poignet gauche de Jean-Loup à un second barreau de la tente, laissant toujours courir le tissu au creux de sa paume. « Continue, mon petit prince. Je veux encore danser pour toi. » Du bout des doigts, difficilement, maladroitement, Jean-Loup continua. Il ne parvenait quasiment plus à tirer sur le long voile, mais peu importait. Au son des violons qui jouaient crescendo, Falline tournait avec une lenteur calculée. Le turban délié se colla un moment à ses hanches, dont la courbe semblait avoir été dessinée pour retenir la ceinture de soie avant qu'elle ne glisse. Le voile mauve n'entourait plus que la naissance du pubis, se décollait déjà de l'arrondi de ses fesses. Jamais Jean-Loup n'avait été aussi excité. Et pourtant, il ne parvenait pas à se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Blandine saura. Blandine devinera. Cette mauvaise conscience qui gâchait tout, qui s'insinuerait même lorsqu'il ferait l'amour à cette fille splendide, ce double irréprochable qui se détacherait de son corps pour lui projeter en hologramme l'image de Blandine, seule dans son lit, amoureuse et confiante, veillant sur Jonathan, brouillant les images féeriques qui tourbillonnaient devant ses yeux. Peut-être que tout le reste de sa vie, il ne pourrait plus aimer Blandine sans repenser à cette nuit. Imperceptiblement, Falline s'était reculée. Le voile mauve dans sa main s'était à nouveau tendu. Ou peut-être serait-ce l'inverse, se força à penser Jean-Loup en imaginant étouffer son double moral sous un coussin de velours. Il traînerait cette culpabilité jusqu'à demain, jusqu'au réveil, parce qu'elle n'était au fond qu'une trouille de se faire prendre. Puis, dès qu'il téléphonerait à Blandine et Jonathan demain matin, le ciel à nouveau s'éclaircirait, et il ne resterait plus de cette nuit qu'une parenthèse enchantée, le plus bel arbre de son jardin secret. Les deux rideaux commandant l'entrée de la tente se refermèrent à cet instant précis. Dans les secondes qui suivirent, Jean-Loup ne perçut plus que la lueur des deux torches derrière la toile, une ombre, plusieurs ombres peut-être, puis aussi soudainement que les rideaux s'étaient fermés, les flammes des torches furent soufflées. Noir complet. Falline ? Falline, tu es là ? Aucune réponse. Un nouveau jeu ? Un piège ? On voulait l'atteindre ? On allait le filmer, le photographier pour briser sa famille ? Qui ? Pourquoi ? Ça n'avait aucun sens. Falline ? Falline ? Les pensées se bousculaient dans son esprit. Il essaya de tirer sur le turban, mais ses poignets étaient solidement fixés. Qui pouvait lui en vouloir ? Il n'avait jamais trompé Blandine. Pas depuis 20 ans, du moins. Pas depuis qu'il avait quitté Vogelzug. Pas depuis que Jonathan était né. Avant Jonathan, il s'était contenté d'aller voir quelques prostituées de l'autre côté de la Méditerranée, lorsqu'il partait plusieurs semaines. C'était si loin. Frénétiquement, Jean-Loup tira sur ses liens. J'ai cru que Jean-Loup pourrait m'aider. Il savait, sans même qu'on en parle. Il avait compris qu'un bébé dormait dans mon ventre. Il avait eu des doutes, forcément. Peut-être aurait-il été prêt à assumer, à nous aimer, au moins par pitié. Je l'ai cru quelques semaines, avant que sa femme, sa vraie femme, tombe enceinte, d'un enfant handicapé. Alors, comme les autres, plus lâchement encore que les autres, il m'a abandonné. Il nous a abandonnés, moi et mon bébé. Jean-Loup était incapable d'estimer combien de temps s'était écoulé. Il perçut seulement une ombre avancer dans le noir, une créature nyctalope, une chouette, un chat, une chauve-souris. Il était parvenu, à force de contorsion, à rendre un peu plus lâches ses garrots. Pas au point de se détacher, mais il pouvait bouger son poignet de quelques centimètres. Se tourner. Il attendit, aux aguets. La créature était tout près de lui. Elle le piqua au bras. Brusquement, violemment, Jean-Loup ne réfléchit pas. Il tira de toutes ses forces sur ses liens, tendit son cou à le décrocher et, en aveugle, mordit la main qui maintenait l'aiguille dans son avant-bras. Il entendit un cri. Hurla lui aussi alors que la main arrachait l'aiguille en se reculant précipitamment. Un bruit de verre brisé s'ajouta au vacarme. Immédiatement, Jean-Loup repensa au pendentif de verre qu'il avait offert à Falline. Falline ? Son esprit visualisa les dernières images enregistrées par ses yeux, derrière la toile de la tente, avant que les torches s'éteignent. Il avait cru distinguer deux ombres. Mais peut-être n'était-ce dû qu'à l'illusion de la double source de lumière. Son agresseur ne pouvait être que Falline, mais sa raison refusait de le croire. Un inconnu pouvait s'être introduit dans la chambre, un amant jaloux. Il pouvait avoir agressé Falline, puis s'en prenait à lui. Il attendit encore. Il s'efforça de compter les secondes dans sa tête et évalua qu'il s'était écoulé 6 minutes depuis qu'il avait repoussé son agresseur. Le goût du sang commençait à se dissiper dans sa bouche. Il ressentit d'abord la douleur à son poignet droit, puis au gauche dans la seconde suivante. Le sang ne coulait plus dans sa gorge. Il coulait le long de ses bras. Son sang. Son assassin s'était cette fois approché sans bruit. Une ombre dans la nuit. Un couteau effilé. Une lame de rasoir, peut-être. Ses deux veines tailladées. Falline. Falline, je t'en supplie. Personne ne lui répondit. Quelques minutes plus tard, il entendit la porte de la chambre caravansérail du Red Corner s'ouvrir, puis se refermer. C'était fini. Il allait mourir ici. Certains amants repentis avouent sur leur lit de mort des doubles vies. Des triples vies, des vies de mensonges, sans jamais s'être fait prendre. Lui serait condamné à mort pour sa première faute. Quelle ironie. On allait le trouver dans cette chambre au petit matin, une femme de ménage sans doute, ou le couple de clients suivants. On découvrirait son portable dans sa poche, on préviendrait Blandine, elle n'y croirait pas, ni à sa mort, ni à la scène de crime, ni à sa trahison. On s'interrogera, on se rendra dans sa chambre au Radisson Blue pour chercher des indices. On fouillera ses valises. On y trouvera un petit avion, une maquette d'A380. On rendra ses affaires à Blandine, qui offrira l'avion à Jonathan en expliquant que papa est monté au ciel. Jonathan ne sera pas triste. Sur son visage, en découvrant l'avion, s'affichera son grand sourire innocent. Sa dernière pensée sera que son papa est gentil, qu'il lui rapporte toujours des surprises quand il part. Alors, il filera dans le jardin en courant, en levant très haut son avion et en mimant le bruit du moteur avec sa bouche. Il regardera en l'air pour chercher papa, pour lui dire merci. Puis, très vite, il l'oubliera.